Nous restons debout, s'il vous plaît, et nous lisons ensemble ce matin dans le livre L'Évangile selon Luc au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er, Luc chapitre 2 à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, c'est-à-dire tout ce qui existait à cette époque-là. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il est parti donc afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, puisqu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux, leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle, on dit oui, amen. Hein? C'est terrible, il faut toujours qu'on vous rappelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est le titre du message ce matin. Alors, c'est un ange, cette fois-là, qui avait annoncé la bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle d'un temps nouveau. La venue du Seigneur a inauguré un temps nouveau. La naissance de Jésus, la venue sur terre de Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous, ça a inauguré un temps nouveau. Un temps nouveau où, comme l'a dit le prophète Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Comme maintenant, il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres un peu partout. Ce n'est pas de bonnes nouvelles qu'on entend. Mais il reste que la bonne nouvelle demeure, celle de Jésus qui est venu pour que ces ténèbres cessent d'être afin que la lumière vienne. Un temps nouveau a été marqué par la naissance d'un sauveur. En effet, Jésus est venu pour mettre un terme à la séparation. À cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, à cause de ce péché, il y a eu séparation, il y a eu une cassure qui s'est créée. Il a fallu trouver le moyen de rétablir la communion entre l'homme, l'être humain créé à l'image de Dieu et son Dieu. La rupture était là et c'est Jésus qui est venu pour rétablir ce lien, mettre un terme, mettre fin à cette séparation entre Dieu et sa créature. Vous allez convenir avec moi que c'était nécessaire. L'homme sans Dieu ne pouvait pas continuer à vivre. L'homme sans Dieu se détruisait en vivant loin de Dieu. L'homme sans Dieu faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, s'éloignait de plus en plus de Dieu. L'homme sans Dieu ne peut pas aller loin. Jésus est venu pour rétablir cette communion, afin que nous puissions revivre, vivre à nouveau, amen, et vivre dans les voies de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, vivre en faisant ce qu'il attend de nous. Parce que si Jésus n'était pas venu, tout ce qu'on peut dire que nous avons une bonne conscience ne pouvait pas rétablir cette communion, ni la bonne conscience, ni même les bonnes œuvres. Ce qu'on entend encore aujourd'hui, les bonnes œuvres, tout ça, même la loi quand elle a été donnée, même la loi ne pouvait pas absolument donc mettre un terme, ne pouvait pas justifier le pécheur. C'est Jésus seul, quand il est venu, qui a pu justifier. Donc, mais la loi de Moïse ne pouvait rien faire de tout cela. Seule la foi en Christ pouvait le faire. Seule la foi en Christ nous permet de renouer avec Dieu. Seule la foi en Christ nous permet de nouveau d'être agréable à Dieu. Il fallait donc que Jésus vienne. Paul dit ceci quand il s'adresse aux Galates, au chapitre 3, il dit au verset 23, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » C'était notre guide, la loi, c'était notre guide pour qu'on ne pêche pas, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Elle a eu son effet, elle a eu son impact, mais c'était pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, la naissance de Jésus est venue vraiment bouleverser l'ordre des choses, est venue remettre les compteurs à zéro, si je peux ainsi dire, Dieu ayant oublié, avec la mort de Jésus-Christ, Dieu ayant oublié tout ce qu'il y avait comme péché qui nous avait coupé de lui. La naissance de Jésus ne fut donc pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Marie n'est pas tombée enceinte par hasard. D'abord, elle n'avait pas eu de relation avec Joseph, elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui est survenant sur elle que cela est pour. Donc ce ne fut pas le fait du hasard, mais c'était quelque chose de planifié par Dieu depuis l'éternité. Amen. Il connaît tout d'avance. Et il l'a fait depuis l'éternité parce qu'il savait qu'il fallait réconcilier l'humanité pécheresse avec lui. C'est pourquoi cette naissance est le sujet d'une grande joie. Mais tellement on célèbre ça d'année en année. Nous allons voir tout à l'heure qu'on oublie l'essence première de Noël. On oublie l'essence première de la venue de Jésus-Christ. C'est devenu une fête du monde, une fête pour s'amuser. Je vais en parler tout à l'heure. Je voudrais juste que nous ne soyons pas comme n'importe qui prend cette fête comme une autre fête, une occasion de célébrer, une occasion de s'amuser, etc., mais que nous puissions le prendre donc avec toute son importance. Donc l'événement dont nous parlons aujourd'hui est tellement important dans l'histoire chrétienne qu'on ne peut pas ne pas le souligner, on ne peut pas ne pas le célébrer. On ne peut pas. Pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, c'était depuis l'éternité que Dieu le savait. Il a été en plus annoncé longtemps à l'avance. Quand Ésaïe parle et tous les prophètes parlent de la venue de Jésus-Christ en donnant certains détails, mais il les donne comme 700 ans avant que l'événement n'arrive, ne se produise. 700 ans. Donc Dieu le savait longtemps à l'avance. Et c'est lui qui a inspiré ses prophètes pour qu'ils puissent parler de sa part. Annoncé longtemps à l'avance et parce que c'était la concrétisation de la volonté de Dieu. Dieu n'agit pas en réaction des événements. Il est en avance. Il connaît tout d'avance. Il avait tout prévu. Il n'est jamais surpris par les événements. Dieu est toujours à l'avant-plan. Dans le livre d'Ésaïe 46, il dit, j'annonce, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je l'annonce avant que ça n'arrive. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, lui n'est pas comme ce qu'on entend aujourd'hui, des gens qui disent qu'ils donnent des prophéties et des prophéties qui ne se réalisent pas. J'annonce longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et quand j'ai arrêté quelque chose, ça va subsister et ça va s'accomplir parce que c'est moi-même qui vais exécuter ma volonté. Extraordinaire. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. En qui on peut faire confiance? Il ne dit pas des choses qu'il n'est pas capable d'accomplir. Il dit des choses qu'il est capable d'accomplir. Il en a les moyens, il en a l'autorité. Nous avons débuté le culte en disant qu'il est tout puissant. Nous célébrons et nous chantons la puissance de Dieu parce qu'il l'est réellement. Amen. Plus de 700 ans avant, Ésaïe parle de ce qui devait arriver. Une autre raison, c'est que la naissance de Jésus a été annoncée avec une précision surprenante. Nous venons de dire que à un moment donné, Joseph devait monter de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, pour aller à ce recensement. Ce recensement a été commandé par Quirinius, qui était gouverneur de Syrie à ce moment-là. Et tout le monde devait y aller. Tout le monde devait aller dans la ville de ses origines. Donc, eux, ils devaient aller, comme ils sont de la famille de David, ils devaient aller donc à la ville de Bethléem. Donc, la précision ici, c'est que Jésus devait naître d'une vierge. Ça aussi, ça a été dit longtemps avant. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. On ajoute qu'il naîtra à Bethléem. Bethléem, il précise même la place longtemps à l'avance. À Bethléem, Michée lui dit au chapitre 5, verset 1er, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Alléluia. Jésus n'est pas venu naître ici, il existait avant, mais il s'est fait, Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il fallait donc que quelqu'un, peut-être sans savoir pourquoi il a commandé ce recensement à ce moment précis, que quelqu'un commande, ordonne que ce recensement ait lieu pour que Joseph et Marie se déplacent de Nazareth vers Bethléem. Et c'était quasiment au moment où elle était à terre. Elle ne pouvait pas ne pas y aller. La mission de Jésus, bien-aimé, a aussi été longtemps d'avance précisée. Il n'est pas venu juste à l'aventure. Bon, je vais aller voir, hein. Je vais voir ce que je vais faire, je vais d'abord découvrir les lieux, et puis, non. Dans Ésaïe, c'était annoncé. Ésaïe 42, premier chant du serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Et il annoncera la justice aux nations. Il n'est pas venu faire du tourisme. Il est venu annoncer la justice aux nations. Il ajoute qu'il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et il ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. C'est ça les termes qu'on utilise ici, qui ne brisera point le roseau cassé. C'est quelqu'un qui ne vaut plus rien. Un roseau cassé n'avait plus de valeur à cette époque chez eux, parce que les roseaux servaient à la fabrication des instruments de musique. Quand il est cassé, quand il est brisé, il ne vaut rien, il est bon à être jeté. Mais lui est capable encore de faire quelque chose, même avec un roseau cassé. Même une mèche qui fume encore, mais qui est bonne à être jetée parce qu'elle ne brûle plus, mais lui, il est capable encore de la faire rallumer. Il annoncera la justice selon la vérité. Quand on pense, le verset précédent, on dit qu'il ne criera point, il n'élèvera point la voix. C'est un peu ce qui est arrivé. Quand vous, Ésaïe 53, quand on l'amenait, etc., on dit qu'on l'amenait comme une brebis, des brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, pas parce qu'il ne pouvait pas parler, il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas défendu, c'est cela. Jésus avait une mission et il l'a accomplie. Lui-même, quand il est venu, nous le lisons dans Luc chapitre 4, il confirme réellement cette mission qui était annoncée depuis le temps d'Ésaïe. Et il le confirme, Luc 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur, il s'est approprié ses paroles » de Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, dans Ésaïe 60, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, etc. Et au verset 21, il dit, alors il commença à dire, c'est Jésus qui parlait, il dit, aujourd'hui, cette parole qui avait été dite par Ésaïe longtemps à l'avance, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie à la personne qui vous parle aujourd'hui. Sa mission était claire, elle était annoncée longtemps à l'avance. Donc la naissance de Jésus a été annoncée avec une précision et une précision extraordinaire. Comme quoi Jésus est venu comme le sauveur du monde. Il est venu comme le sauveur dont le monde a besoin. Encore aujourd'hui, bien-aimé, le monde aujourd'hui Beaucoup de siècles après sa venue sur terre, beaucoup de monde aujourd'hui encore ont besoin de connaître le Sauveur du monde qu'est Jésus-Christ. Il est venu comme le Sauveur du monde, même s'il est venu dans l'humilité, déjà où il est né. Sa naissance elle-même n'est pas survenue dans un palais royal. Fils de roi, fils de Dieu, mais il est né dans une étable. On dit que dans l'hôtel, on ne pouvait pas trouver de place pour lui. Dit-on, c'est des pauvres gens ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, non, il n'y a pas de place pour lui. Mais Dieu savait que ça devait se faire comme ça. Sa naissance est venue, non pas dans un palais, mais dans une étable. Alors qu'il était fils de Dieu, il a dû fuir les massacres. Quand Hérode a appris la naissance avec les mages, quand ils lui ont dit que « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Je vais en reparler, mais il a paniqué, il a eu peur, etc. Il a massacré tous les enfants, ils ont dû fuir, fils de Dieu qui a fui. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le protéger? Dieu pouvait le protéger, mais il a dû fuir, pareil, sauveur du monde, mais il est venu dans l'humilité, amen, et sans tambour, sans éclat, sans trompette. Il a dû fuir le massacre d'Hérode. Nous venons de lire dans le texte de Luc que ses parents étaient originaires de Nazareth. C'est une petite bourgade négligée, une bourgade méprisée même, parce qu'il dit que vous êtes de Nazareth. Oh, on regarde, il dit, il ne vaut rien du tout, il ne vaut rien du tout. D'ailleurs, vous vous rappelez de l'histoire de Philippe avec Nathanaël dans Jean chapitre 1er, le verset 45. Philippe qui rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé, et avec toute la joie, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Nous l'avons trouvé, nous l'avons trouvé. Il s'appelle Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il ne cache même pas, parce que Joseph était certainement connu comme charpentier dans le coin. Il dit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon pour vous montrer comment on considérait les gens qui venaient de Nazareth. Mais c'est là qu'il est venu, c'est de là qu'il est venu. Dieu a voulu qu'il vienne dans ces conditions, dans l'humilité, parce qu'il n'est pas venu avec... des trompettes et tout. Tout ce qu'il a fait d'ailleurs, tout ce qu'il a fait, même quand il a fait son entrée dans Jérusalem, la dernière semaine, quand il vient à Jérusalem, qu'on l'a accueilli, Hosanna au fils de David, les gens ont enlevé leurs habits, ont déposé par terre, tout le monde chantait pour lui avec des palmiers, des feuilles de palmiers et tout ça. Mais lui n'est pas venu sur un char en or, non, 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 il est venu sur... Sur un âne, l'humilité de Jésus-Christ. L'autre chose qu'on peut dire de lui, c'est que ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Montre l'humilité dans laquelle il est venu. Il est venu vivre humblement avec les moyens de bord. Déjà, quand il a été présenté au temple, selon le livre de Lévitique, quand on devait le présenter au temple, etc., pour la purification, la femme devait se présenter pour la purification et tout, il devait venir avec une offrande, donc, à présenter au Seigneur, et ça devait être un agneau. Mais on prévoyait qu'il y avait déjà des conditions modestes, qui n'avaient pas de moyens. Dans Lévitique, j'ai noté ça, 12:8, il fallait venir avec un agneau, offrir un agneau ce jour-là. Mais ceux qui n'avaient pas de possibilités, on les prenait en compte. Mais il pouvait amener des tourterelles ou des pigeons, deux pigeons, etc. Et c'est ce que Marie a amené quand il est venu présenter Jésus-Christ, dans l'humilité. Et pourtant, roi des rois, seigneur des seigneurs, fils de Dieu, amen, sauveur du monde, libérateur des opprimés. Il est venu, nous l'avons dit ici, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tout n'est pas fini avec vous à cause de votre condition malheureuse. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il se préoccupe des cœurs brisés. Il est venu pour proclamer la délivrance à ceux qui étaient captifs. Il est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. Une grande mission, mais dans des conditions d'humilité, dans des conditions comme de faiblesse. Faiblesse à nos yeux humains. Mais il avait toute la puissance qu'il fallait pour accomplir sa mission. Et la dernière chose, c'est que Siméon, justement, quand on est venu présenter Jésus au temple, la Bible dit qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Il attendait la venue de ce Sauveur. Il attendait la venue de celui qui viendrait libérer Jérusalem. Il venait, il l'attendait. il l'attendait. Et Dieu a permis par le Saint-Esprit qu'il puisse le pousser à aller au temple le jour, au moment même où on venait présenter, et c'est lui qui a porté cet enfant, etc. Et mais poussé par l'Esprit, il a dit que cet enfant que je présente est destiné à être un sujet de contradiction. Il va provoquer la contradiction au milieu des gens. Il va être comme une pierre d'achoppement. Cet enfant va subir le rejet. Voici, on est en train d'annoncer longtemps à l'avance, c'était avant que ces choses n'arrivent. Il était encore bébé, mais 30 ans après, il va commencer, 33 ans après, il va commencer à subir ce rejet quand il a commencé son ministère. Il a été rejeté, on a eu de la haine envers lui, etc. Et c'est cela. Mais le Seigneur savait que ça faisait partie de la mission que Jésus devait accomplir. Le dimanche dernier, quand j'ai apporté le message ici, on a parlé de Jésus qui a aussi été tenté. Fils de Dieu qui a été tenté par le diable. Parce qu'il était à la fois Dieu, mais il était aussi homme, humain. Ça veut dire qu'il pouvait être tenté dans son corps. La chair est faible, comme on dit, et donc il pouvait être tenté dans son corps. Mais nous savons que lui a été tenté, mais il n'a pas péché une seule fois. Sachez aussi que tout ce qu'il a subi, tout ce que Jésus a subi le préparait justement à nous comprendre, à ne pas nous rejeter. Ça le préparait. Lui-même a été tenté, il nous comprend quand nous sommes tentés. Amen. Et il nous apporte donc le réconfort dont nous avons besoin, le secours dont nous avons besoin. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous dit au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Notre souverain sacrificateur est capable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, on dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Ça nous pousse à avoir une réaction de nous approcher de lui. On sait qu'il ne nous rejettera pas. Il nous connaît dans nos faiblesses. Quand nous nous sentons faibles, nous nous approchons de lui, mais nous nous approchons de lui avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il ne rejette personne. Il n'y a pas une condition dans laquelle tu peux te trouver ou dire non, il ne voudra pas me voir. Non, 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 il nous accepte parce qu'il est plein de grâce, mais aussi plein de vérité. Amen. Seigneur est bon. Bien-aimé, cette bonne nouvelle continue à être annoncé aujourd'hui. Je le fais ce matin. Il y a des gens qui vont l'entendre sur Internet, etc. Je sais que dans d'autres églises, ce n'est pas aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé depuis le mois de décembre à parler de Noël, à parler de la venue de Jésus, à donner le sens de la venue de Jésus. On va continuer à en parler, etc. partout dans le monde. Donc cette bonne nouvelle continue à être annoncée jusqu'à maintenant. Mais comment est-ce qu'elle est accueillie? C'est toute la question. La bonne nouvelle peut être annoncée, mais il faut qu'elle soit accueillie. Parce que c'est la manière dont cette bonne nouvelle va être accueillie qui va déterminer si les gens vont s'en rappeler d'abord qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus, Dieu a pensé à nous et nous a envoyé son Fils unique. C'est cela. Si la bonne nouvelle est bien accueillie, on va l'accueillir comme il faut et on va célébrer cet événement comme cela se doit. On va le célébrer. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Si je reviens déjà à cette époque-là, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on a annoncé la naissance de Jésus par les mages venus d'Orient, dans Matthieu, chapitre 2, au verset 3, on dit que c'était une bonne nouvelle. L'ange annonce une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, au lieu de faire la joie de ceux qui l'entendent, cette bonne nouvelle a troublé le roi Hérode, le premier. Et je viens de dire qu'il a ordonné le massacre des enfants parce qu'il s'est senti menacé. Il dit, ah, un roi qui vient de naître. C'est qui? Je veux savoir. C'est qui? Je veux savoir. Il a fait semblant de vouloir prendre des nouvelles pour savoir à quel endroit il est né. Tout ça. Il dit au mage, allez voir. Dès que vous avez déterminé, venez me voir. Pourtant, il a eu la confirmation de la part des gens de la cour, les sacrificateurs, les scribes, que oui, et la Bible avait annoncé que le fils naîtrait, et qu'il naîtrait même à Bethléem. On a précisé cela. Le roi le savait. Ceux qui le lui ont dit qu'il le savait, n'ont pas bien accueilli la nouvelle non plus, parce qu'ils sont restés chez eux. C'était un événement de taille, c'était un événement important, c'était l'accomplissement de plusieurs prophéties qui ont été dites auparavant. Moi, je pense que Moi, si j'étais à leur place, la première chose que je ferais, je dis, waouh, c'est arrivé, je vais être témoin de cet événement, je vais aller avec les mages. Non, ils sont restés là parce qu'ils disent, oh non, non, il viendra nous déranger, lui, dans ce qu'il vient faire. Nous, nous sommes bien dans notre façon de fonctionner, il vient troubler notre paix. La manière dont nous accueillons la bonne nouvelle va déterminer la manière dont nous allons célébrer ce moment ou pas. Donc, ils ont été indifférents, les sacrificateurs et les scribes, face à ce qui était l'accomplissement de la prophétie de Michée. Aucun intérêt, aucune curiosité pour aller voir et venir témoigner, dire « Hé, voici, la parole s'est accomplie, aujourd'hui, un fils nous est né, etc. » Ils n'ont pas voulu. Hérode a réagi, lui, avec violence, je l'ai dit tout à l'heure, et il a massacré des centaines de milliers d'enfants, peut-être, qui avaient moins de 2 ans, ne sachant pas quand il est né, où il est, il dit, allez, faites le tour de la ville, tuez tous les jeunes enfants de moins de 2 ans et moins. Ça, c'était à l'époque de Jésus-Christ. Et je pense que ce n'est pas différent aujourd'hui. Même s'il n'y a peut-être pas de massacres, bien qu'il y ait des massacres. On massacre encore des gens qui croient en Jésus dans le monde. On massacre encore des gens qui veulent se réunir et offrir des cultes d'adoration au Seigneur. On massacre encore des chrétiens dans le monde à cause de cette bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment les gens ont accueilli la nouvelle et comment ils célèbrent, s'ils célèbrent. Pour certains, c'est juste un temps pour se gâter. Ah, je vais gâter mes enfants. Là, vous allez, cette année en particulier, mes enfants vont être bien. Pas mauvais. C'est pas mauvais de gâter les enfants. Mais ça ne doit pas être la préoccupation principale. Ce n'est pas toi être le focus. Le focus. Donc c'est un temps pour se gâter, c'est un temps pour s'offrir des gâteaux, c'est un temps pour certains même se laisser aller un peu. Tu sais quoi, une fois l'an, c'est pas grave, le Seigneur va comprendre. Nous sommes en fête, hein, nous sommes en fête. Alors c'est des beuveries et tout, et puis on a trouvé des solutions. Le monde crée toujours des solutions pour encourager ce genre de choses. Ils ont mis en place le système qu'on a de nez rouge. Alors, buvez, amusez-vous, il y a nez rouge qui est là pour vous ramener chez vous à la maison. Pour certains, ça va être ça. Et ça, je dis, c'est célébrer juste à la manière des païens. Je voudrais vous inviter, mes frères, mes sœurs, ne vous offrez pas ce plaisir en disant, mais pasteur, c'est une fois l'an que je le fais. C'est une fois l'an. Non, 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 non. Non, non. C'est la manière de fêter des païens. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi, parce que ça vient, ce piège vient avec d'autres problèmes. Gâter les enfants, c'est bien, mais parfois, il y en a qui vont au-delà de leurs moyens. Ils grattent à fond la carte de crédit. Gratte à fond la carte de crédit parce que oh, je ne veux pas qu'on se moque de moi que mes enfants n'ont pas eu sinon pas cela. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Amen. Vis avec tes moyens et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va procurer la joie à tes enfants parce qu'il connaît ton cœur et les enfants savent que tu les aimes. Même avec des cadeaux de chez Dollarama, les enfants vont apprécier. C'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Amen. Je ne suis pas en train d'encourager de donner que des cadeaux de Dollarama. Amen, amen. S'il y a des gens qui saisissent la balle au bon, on dit, ah, le pasteur l'a dit, tous, chez Dollarama. Non, juste, vous dites que ne le faites pas comme les gens du monde, parce qu'il y a la tentation de dépenser dans ce temps des fêtes ici. C'est votre responsabilité personnelle d'y veiller et ne l'oubliez surtout pas. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier ne veut rien savoir de Jésus. Ils ne veulent rien savoir de sa mission salvatrice. L'ennemi fait tout pour étouffer cette bonne nouvelle. Il veut l'étouffer absolument. Il veut tout faire pour enlever à la fête de Noël son vrai sens, son sens premier. Le sens premier de Noël, c'est pas des guirlandes, c'est pas des lumières, etc. Le sens premier, ce n'est pas le repas autour de... Non, le sens premier, c'est Jésus qui est venu pour que les ténèbres ne règnent pas sur la terre. Et le monde dans lequel on est un monde vraiment déréglé, etc., qui est dominé aujourd'hui par... quand on dit le monde entier est sous la puissance du malin, c'est que, voilà, regardez, toutes les publicités commerciales qui nous envahissent, etc., et qui nous détournent finalement de l'essentiel. On court pour la fête, etc., et on est exposé à la convoitise des yeux, tout. C'est cela, mais c'est tout ce que l'on fait là-bas, si Jésus n'est pas au centre, nous sommes à côté de la traque. Même quand on a décoré sa maison avec un arbre de Noël, même on a mis des lumières, etc., toutes ces lumières ne peuvent pas éteindre ou cacher ou éclairer les ténèbres dans lesquelles le monde est aujourd'hui. Il y a des lumières partout, il y a des, même au centre-ville, des quartiers qui sont pleins de pêcheurs, je ne vais pas citer lesquels, mais hein, c'est éclairé partout. Mais les péchés abondent. Le péché abonde dans ces coins et ça n'éclaire pas les ténèbres, toutes ces lumières. Donc c'est triste de constater que de nombreuses personnes succombent à tous les pièges que l'ennemi donc leur tend. Donc certains, c'est pour se gâter. D'autres, c'est, ah, écoute, c'est l'occasion de renouer avec l'Église. Ah, ça fait 6 mois que je n'ai pas mis mes pieds à l'Église, mais je vais y aller à Noël. Tiens, je vais y aller à Noël. Le renouer avec l'Église. Ah oui, je vais aller fêter la naissance de Jésus. Si Jésus est né, il vit dans ton cœur et tu ne peux pas le sortir de ton cœur à un moment donné, le mettre de côté, le tasser en disant, maintenant je vis ma vie et puis l'autre Noël ou à Pâques, j'irai encore à l'Église. Non. Pour certains, c'est cela. C'est l'occasion de renouer avec l'Église. Et c'est ça, et donc pour se donner juste une conscience tranquille. Mais ta conscience ne sera jamais tranquille. Même quand tu fais ces choses, que tu as déjà entendu parler de la bonne nouvelle, que tu as déjà goûté à Dieu, à goûter au Seigneur, savoir combien il est bon, combien il fait du bien à ceux qui le cherchent, à ceux qui s'attendent à lui, cette conscience va être troublée. Elle va être troublée. Ça va te déranger à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, il ne faut pas être sourd, il ne faut pas étouffer la conscience. Hein? Il ne faut pas l'étouffer, il faut écouter. Donc, pour d'autres, c'est l'occasion de s'acquitter donc, d'un devoir de charité. Alors, les guignolés, tout et tout, on donne. Ah oui, moi aussi, j'ai participé à aider les nécessiteux, les pauvres. Mais ce n'est pas seulement à Noël. Les pauvres, c'est le reste de l'année. Ici, ils sont pauvres, il est pauvre le reste de l'année. Mais qu'est-ce que vous faites de ces gens-là-bas? Il faut penser aux pauvres tout le temps. Tout le temps, ce n'est pas seulement à Noël. Mais comment ça doit se passer pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu? Comme j'ai dit dès le début, fêter Noël, c'est se rappeler du grand amour de Dieu pour l'humanité. Le grand amour, se souvenir du grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Célébrer Noël, c'est célébrer sa venue. Il est venu pour le salut de l'humanité. Ésaïe décrit le Fils qui nous est donné comme l'admirable conseiller, le prince de la paix. Il apporte la paix, la vraie paix. Pas la paix des braves, pas la paix des traités, etc., que les gens ne respectent pas. Il est venu apporter la véritable paix des cœurs. C'est Jésus qui est venu. Donc célébrer Noël, c'est cela. C'est célébrer celui qui est porteur de cette paix, qui je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donne cette paix profonde, que même dans les circonstances difficiles, elle n'est pas donc volée. Jésus lui-même se décrit aussi comme la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres, il vient comme la lumière du monde. Nous célébrons celui qui vient éclairer ce monde. Amen. Comme le chemin. Il vient comme le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père. Nous le savons, nous, et nous devons le célébrer comme celui qui ouvre la voie de salut à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible décrit aussi dans le livre d'Apocalypse comme étant l'étoile brillante du matin. Donc il est venu réellement pour éclairer et pour nous éclairer. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas célébrer ce moment. Celui qui le suit. Il y a un chant, un cantique, on dit, celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Dernière chose, c'est que Paul nous invite aussi à être reconnaissant pour le don merveilleux de son Fils unique Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 9, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, son don extraordinaire. » Jésus est un don extraordinaire, c'est un don du ciel, c'est un don divin. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce don-là. Voilà donc la bonne nouvelle, sur quoi doit se concentrer donc un véritable chrétien. Alors, il y a quelques temps, quelques années, peut-être quand on venait d'arriver à l'Assomption, j'avais apporté un message justement pour montrer comment cette bonne nouvelle est accueillie. Allez, la bonne nouvelle, Noël, fêter Noël, on dit que c'est le 25 décembre. Comment est-ce qu'elle est accueillie? Mais qu'est-ce qu'on entend parmi les enfants de Dieu? Au lieu de se concentrer sur la nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle qui a réellement eu lieu, donc ce n'est pas une bonne nouvelle qui est un fake news ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui a eu lieu et qui a produit des effets. Mais ce qu'on voit malheureusement au milieu des chrétiens, c'est des discussions inutiles. J'appelle ça inutile, des discussions vaines, qui ne provoquent que des divisions, qui ne provoquent que des querelles. Certains disent, oh non, on ne doit pas fêter Noël, parce que le monde a détourné, le monde où les commerçants ont détourné ça à des fins mercantiles. C'est une occasion d'acheter. Moi, je ne le dis pas parce que je ne l'ai pas entendu. Je l'ai entendu dans une église où j'étais. Il dit, on ne peut pas fêter Noël. Non, c'est une fête commerçante, etc., et qui pousse les gens à dépenser. On ne peut pas fêter Noël. Et c'est, on l'entend même dans le milieu des enfants de Dieu. Mais moi, je dis, les fêtes mercantiles, il n'y a pas que Noël. Pâques aussi a été récupéré. N'allons-nous pas fêter Pâques non plus? La résurrection du Seigneur. On ne veut pas célébrer sa naissance. On ne va pas fêter Pâques, sa mort et sa résurrection. Alors que c'est la clé. C'est la clé de la vie chrétienne. Donc, il n'y a pas que Noël, il y a aussi Pâques. Donc, ne célébrons pas Pâques non plus. Parce que les commerçants font de bonnes affaires avec les œufs de Pâques, le chocolat et tout le reste. Discussion vaine. Ne prenez pas part à ces discussions, mes frères et mes sœurs. Ne prenez pas part à ces discussions. D'autres disent qu'on ne doit pas célébrer Noël parce que c'est une récupération d'une fête païenne. Alors, il y a des gens qui sont bons là. Ils remontent dans l'histoire. Au 4e siècle, après Jésus-Christ, il y a eu une fête qui était organisée pendant une semaine, du 17 décembre jusqu'au 24 décembre, et ça se clôturait par une fête. On fêtait et puis on apportait des cadeaux aux enfants. Et je crois que c'est peut-être de là qu'ils tirent l'arbre de Noël, qu'on dépose les cadeaux sous l'arbre de Noël, etc., etc. Il dit, on ne peut pas. C'est une récupération d'une fête païenne. J'ai dit non. Mais moi, quand je fête, je ne fête pas à la manière des païens. Je fête un événement capital qui manifeste l'amour de Dieu au milieu de nous. Noël ne se limite pas aux cadeaux, etc. Mais c'est ça. D'autres disent que discussion sur les dates. Ah oui, ça je ne sais même pas si ça arrêtera un jour. On ne doit pas célébrer, parce que c'est Noël, ce n'était pas le 25, ce n'est pas possible. Des gens qui calculent, ils disent, mais puisqu'on dit que les bergers étaient à l'extérieur, etc., ça doit sûrement être au mois d'avril ou au mois de mai, vous savez. Parce que même là-dessus, les gens ne sont pas d'accord, parce qu'il y en a qui disent c'est en janvier, il y a d'autres qui disent... Mais moi, j'ai pensé trouver une solution. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi les gens discutent des choses comme ça? Est-ce qu'il n'existe pas ici au Québec, dites-moi, des hivers, comment on appelle ça, moins rudes, des hivers doux, etc., où les gens sortent sans manteau, etc., ça existe? Oui? Bon, ça me rassure. Mais là, on n'était pas au Québec. Hein. Là où Jésus est né, ce n'était pas au Québec. Donc, les conditions doivent être plus abordables, etc. Donc, c'est possible que c'était un désastre. Mais puis, est-ce que ça a son importance? Dieu n'a pas dit que j'enverrai, il viendra le 25 décembre. Dieu n'a pas dit ça. Les dates, là, les mois et les années, c'est des conventions d'hommes. Et on peut aussi convenir, comme enfant de Dieu, on dit, OK, depuis tout le temps, on a fêté Noël le 25. On fête le 25, point final. Point final. Hein? On ne doit pas célébrer le 25 parce que les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux, etc. Ce sont des discussions vaines et inutiles et qui ne sont que à la base des divisions. C'est pour ça que Paul nous exhorte. J'aime Paul. Il nous exhorte dans Romains 14 à faire accueil aux faibles dans la foi. Ça, c'est des gens faibles dans la foi qui s'accrochent à des petits détails comme ça et qui sont prêts à abandonner, à lâcher les autres, à créer des divisions, à créer des sectes. J'appelle ça secte parce que si vous vous séparez pour une raison comme celle-là, ça devient comme une secte.
Il dit, faites accueil aux faibles dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ça fait du mal à l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que, oui, tu penses que c'est ton opinion. Si je ne partage pas cette opinion, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en accord avec la célébration de la fête de Noël. Ne discutez pas sur les opinions. Ça nous divise, ça crée des problèmes. Le même Paul revient là-dessus dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 23. Il encourage, il dit, Timothée, à repousser les discussions folles. Des discussions folles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et ça, l'ennemi est fort. Quand il voit qu'une porte s'ouvre dans ce sens-là, il enfonce. Il pousse déjà encore à aller faire des recherches, à trouver, oui, je confirme qu'au 4e siècle, il y avait ça, et que le concile de ceci avait dit. Bien aimé, des querelles inutiles, des divisions inutiles. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi se compliquer la vie? Moi, je dis, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec les décorations, parce que ça aussi, c'est objet de discussion. Nous, ici, on avait des décorations. Il y a quelques années, cette année, on n'a pas mis, mais ce n'est pas grave, il faut qu'il y ait changement. Des fois, on en met, des fois, on n'en met pas. Mais moi, je n'ai aucun problème avec les décorations parce que moi, je n'accorde aucun sens spirituel à ces décorations. Aucun sens spirituel. Les gens qui ont l'arbre de Noël, comme je vous ai dit, ils disaient, oh, mais cette fête-là, à la fin, on venait mettre des cadeaux en dessous. Puisque les gens font ça aujourd'hui, ils disent, c'est païen, etc. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec les décorations, avec les lumières, avec les guirlandes, avec des choses comme ça, mais pas de problème. Qu'il se sente libre, mais qu'il s'abstienne. Qu'il s'abstienne de juger, de condamner les autres qui le font. Mais pour autant que ces personnes qui le font ne donnent pas un sens spirituel, une valeur spirituelle à ce qu'ils font chez eux. Sinon, vous vous rendez compte, on n'en finira pas. D'analyser ce que lui fait chez lui fait ceci chez lui. On perd le temps et on se détache de l'essentiel. Nous voulons nous concentrer sur l'essentiel et ne jugeons personne, pour autant que les gens qui le font n'accordent pas de sens spirituel à cela. Il y a des gens qui font encore des crèches, une étable, ils font des dessins d'étable, etc. C'est pas parce qu'ils adorent la statue qui est là. Non, il n'y a personne qui va s'agenouiller devant cette histoire. Je vais terminer. Je voudrais vous inviter que ensemble, bien-aimés, nous fassions de ce temps, cette période de Noël, un temps pour pardonner. Amen. Un temps pour pardonner. Pardonnez ceux qui vous ont offensés. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Nous sommes encore dans la chair. On est sensible. Il y a un mot qui peut être sorti et qui sort et qui est mal saisi dans l'oreille d'un frère, d'une sœur, et puis il en fait tout un plat, et puis c'est la division, je ne veux plus parler, je ne veux plus voir, je ne veux plus rencontrer. Que ce soit un temps pour pardonner, parce que nous réalisons que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Un temps pour pardonner. Un temps pour répandre l'amour. L'année prochaine, nous avons choisi comme thème l'amour en action. Mais on commence déjà maintenant. On commence déjà maintenant. Un temps pour répandre l'amour autour de nous, un temps pour partager un moment, faites-vous violence, ouvrez vos maisons, amen. Je ne dis pas d'aller prendre tout le monde qui est sur la rue, etc. J'ai déjà fait la remarque à quelqu'un, j'ai dit, mais ouh, tu soignes trop ton tapis dans ta maison, tes chaises et tout, mais des fois, il faut aller prendre des gens qui sont sur la rue, tu mets quelque chose par-dessus, mais qu'il entre aussi, qu'il soit au chaud chez toi. Et que tu partages un peu la chaleur de l'amour avec une telle personne. Partager un moment avec quelqu'un qui se sent seul. Il y a beaucoup de gens qui vont passer ce Noël seuls, comme s'ils n'ont pas de voisins, comme s'ils n'ont pas de connaissances, comme s'ils n'ont pas de... Si vous connaissez quelqu'un qui est seul, trouvez un moment pour prendre avec lui, prendre même un café, un beigne, tout et tout. Que ce temps de Noël soit un temps pour inviter les gens à faire la paix avec Jésus. Il y en a beaucoup qui ont besoin de faire la paix avec Jésus. Beaucoup ont besoin de faire la paix avec Jésus. Mais je parle de Jésus, de grand Jésus. Parce que j'ai un voisin à qui on parle des fois des choses du Seigneur et tout. Et quand il passe par un temps difficile, là, il me dit toujours me montrer, il dit, mais il sait que je suis pasteur, donc il me regarde, il dit, mais ah, c'est moi quand ça ne va pas, je parle à mon petit Jésus. Je dis, non, 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 non. Hein? Non, 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 faire la paix avec Jésus, ce n'est pas le petit Jésus. Il n'est pas resté dans la crèche, il a grandi, il a accompli, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait du bien aux gens, il a guéri des malades, il est mort à la croix pour nous sauver, il est monté au ciel, il a vaincu l'ennemi, il nous a libérés de l'emprise de l'ennemi, il a fait des grandes choses. Ce n'est pas le petit Jésus. Ce n'est pas le petit Jésus, je lui dis ça, il rit, mais il répète toujours la même chose. Mais c'est le Jésus qui a payé cher pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Parlons de lui. Parlons de celui qui a vaincu l'ennemi. Parlons de celui qui nous a libérés des chaînes de Satan. Parlons de celui dont Paul a dit dans son épître aux Colossiens, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je l'ai dit, il était homme, certes, mais il était Dieu. Tout en étant homme, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité, et vous avez tout pleinement en lui. Parlez de lui aux gens. Vous pleurez, vous pleurnichez, etc. Mais il y a Jésus qui est là. Jésus qui est prêt à vous accueillir. Jésus qui est prêt à vous écouter. Jésus qui est prêt à vous libérer. Jésus qui est prêt. Parlons de ce Jésus là-bas. Parlons d'Emmanuel. Dieu avec nous, amen. Nous ne sommes pas seuls, amen. Et toutes les promesses de Dieu, amen, sont oui et amen. Amen. Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, il a dit qu'il est avec nous. Quand il quittait ses disciples, il dit, voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Il ne nous abandonnera pas, amen. Quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit ce qu'on annonce comme crise, qui peuvent arriver à cause des perturbations économiques qu'il y a dans le monde, bien-aimés, nous l'avons dit en début de culte, c'est lui qui s'occupe des lys qui les habillent, c'est lui qui s'occupe des oiseaux du ciel. C'est lui. Il ne sème ni ne moissonne, mais ils vivent. Croyons que ce Dieu qui est capable de le faire, Jésus ne l'a pas dit pour rien, il l'a dit pour nous dire, ne pas nous inquiéter. Il l'a dit pour que nous puissions mettre notre confiance en lui. C'est ce Jésus que le monde doit connaître. Que le monde doit connaître. Le but de mon message ce matin, donc, est de vous inviter à opérer des choix, mais des choix responsables. Des choix responsables. Le but est de vous inviter à décider à quoi va ressembler votre Noël 2025. Vous pouvez changer, ce n'est pas tard. Hein. Si vous aviez prévu des choses, olé, olé, revoyez vos plans, etc. Alors, je voudrais être sûr en terminant que j'ai vraiment été bien compris. Vous allez répéter avec moi, il y a mieux à faire pour ce Noël. Ah oui, je vois que vous le dites avec beaucoup de conviction. Amen. Et que le Seigneur vous l'accorde, bien-aimés. Soyons sobres pendant ce temps. Soyons sages pendant ce temps. Nous courons à gauche, à droite. Les conditions, on ne sait pas, ça va être comment d'ici là. Des accidents peuvent arriver. Soyons sobres, soyons sages, ne promenons pas trop là, à gauche, à droite. Faites tout de façon à donner gloire à notre Dieu et que le Seigneur nous l'accorde et qu'il nous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur.